guerre mondiale. Un petit rappel historique au préalable, la Turquie s'était rangée du côté de l'Allemagne et des empires centraux au cours du premier conflit mondial, et leur défaite entraîna aussi la chute de ce qui restait du pouvoir ottoman. Le traité de Sèvres, en 1920, imposa des conditions jugées humiliantes pour la Turquie, et c'est là qu'intervient le général Mustafa Kemal. Il entreprend alors de renverser le pouvoir du sultan et il instaure la République turque en octobre 1923. Il en deviendra aussitôt le président jusqu'à sa mort en 1938.
Alors si je comprends bien, Atatürk, c'était un surnom?
Oui, un surnom qui signifie « père des Turcs », le père des Turcs, ce qui est un signe évident de la vénération dont ce personnage a été l'objet jusqu'à un passé récent. Un mausolée construit à sa mémoire et à sa gloire dans la capitale Ankara, des portraits géants sur les buts de la personnalité. Et il est vrai que les réformes qu'il a engagées dès son accession au pouvoir vont marquer profondément le visage de la Turquie moderne.
Vous nous faites quelques présentations ?
Oui, ces réformes sont nombreuses et radicales pour un pays qui s'était endormi sur ses traditions, au premier rang desquelles les traditions religieuses, et que les dernières années du pouvoir du sultan Abdulhamid, rétrograde et autoritaire, avait tenu dans une totale soumission. La Turquie va devenir en quelques années un État laïque, comme l'étaient à l'époque seulement quelques pays d'Europe, parmi lesquels, bien sûr, la France d'après 1905, et la laïcité est inscrite dans la nouvelle constitution turque. Mustafa Kemal avait en effet pour volonté de faire de la Turquie un État moderne sur le mode occidental, et les principales réformes qu'il engage touchent la religion. La Turquie est alors, et elle l'est encore, un pays à très forte majorité musulmane, même si cohabitent ici et là des minorités chrétiennes ou juives, implantées surtout à Istanbul. Voici quelques-unes de ces réformes. Kemal abolit le califat, l'autorité religieuse suprême très ancrée dans la tradition. Il abolit aussi les tribunaux religieux, de même que la pratique encore répandue de la polygamie. Et il va donner le droit de vote aux femmes entre 1930 et 1934. Rappelons qu'il faudra attendre 1945 en France pour que les femmes l'obtiennent. Mmh. Il impose également d'abandonner le port du fez, le couvre-chef traditionnel des hommes, et préconise le port du chapeau et des vêtements à l'occidental. Il décide aussi de transférer la capitale d'Istanbul, ancienne capitale des Ottomans, à Ankara, en plein centre du plateau anatolien. Mais la réforme qui est peut-être la plus marquante concerne le domaine de l'éducation. Dans les milliers d'écoles et les universités qui sont créées dans le pays, la langue qui y est enseignée est toujours le turc, mais Kemal impose le remplacement de l'écriture en caractères arabes qu'elle utilisait jusque-là par l'alphabet latin, le même que le nôtre à quelques exceptions près, ce qui permet de rendre l'écriture parfaitement phonétique. Dans le turc moderne, une lettre égale un son. Donc, plus de fautes d'orthographe possibles.
Ça va faire rêver les écoliers français, tout ça.
En tout cas, cela a été une véritable réussite et le taux d'analphabétisme, jusque-là très élevé, a rapidement chuté. Il est vrai, pour terminer sur ce point, que la langue turque, qui s'écrivait auparavant avec les caractères arabes, n'a pas de lien avec les autres langues du Moyen-Orient, pas plus qu'elle n'en a d'ailleurs avec nos langues indo-européennes. Et pour faire savant, je dirais qu'elle appartient à un fond ouralo-altaïque et qu'elle a des liens avec le finnois, la langue des Finlandais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, en tout cas, le choix de l'alphabet latin est un signe évident d'européanité. Une européanité qui s'impose aussi dans la politique culturelle d'Atatürk. Il ne veut plus des danses et des musiques en vogue à l'époque ottomane, et des salles de concerts, de ballets et d'opéras à l'architecture résolument moderne sont construites dans les grandes villes, et on y joue Mozart ou Verdi.
Ça fait quand même beaucoup de changements tout ça.
Oui, et c'est par cet ensemble de réformes que l'on désigne sous le terme de révolution kémaliste que la Turquie est entrée vraiment dans le XXe siècle. Ces réformes profondes, accomplies en une quinzaine d'années, ont suscité des oppositions dans les milieux les plus conservateurs, on l'imagine. Mais avec l'appui populaire et une gouvernance passablement autoritaire, elles ont pu être menées à bien. Et si Atatürk est toujours officiellement révéré en Turquie, la révolution kémaliste y est pourtant aujourd'hui contestée, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir en 2003 de Recep Tayyip Erdogan, étiqueté comme islamo-conservateur, et c'est bien évidemment la laïcité telle que l'avait voulu son concepteur qui est la plus remise en cause.
Alors, est-ce qu'on sera encore en Turquie la semaine prochaine ?
Oui, pour parler de littérature, notamment.
Pour l'instant, on va refermer ce chapitre et on se retrouvera la semaine prochaine.
Alors, une bonne semaine en turc.
Ah bah, allons-y.
İyi hafta.
À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Gerger Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.